Québec se lève. La chronique historique de François Thérien. Voici le studieux Sieur de Thérien.
Oh, que oui, bienvenue. Bienvenue, bonjour François Thérien.
Salut, salut.
Tu sais quoi de même?
Je sais pas, hein?
Je suis le Sieur.
Oh, là, là, il faut que je pile sur mes principes parce que ce jeu de mots-là était vraiment assez médiocre. Mais, je vais toujours défendre les jeux de mots, tu le sais. Oui. S'il y avait plus de jeux de mots, il y aurait moins de gens malheureux ça.
Oui, c'est sûr.
Ça en prend des gens comme toi.
Oui, là. Merci.
Hey, François, là, je suis curieux ce matin parce que, à date, dans toutes tes chroniques historiques, j'avais un minimum de connaissances sur la personne ou sur les événements dont tu nous parlais, tu sais, le carnaval, Jean Garon, la grippe espagnole, mais je connais rien sur Wilbrod Bérard à part l'école.
Ben, je te dirais que quand j'ai décidé de faire cette chronique-là, j'étais un peu mieux que toi à peine.
Parce okay. que je le connais. En fallu que tu fouilles.
En fait, on connaît Wilbrod Bérard à cause du centre de formation professionnelle qui porte son nom.
Là, mais... si vous allez sur Google là, hier, juste pour être sûr de savoir comment ça s'écrivait comme il faut, tout ce qui sort, là, autant comme image que pour résultat, là, c'est juste en lien avec le centre de formation. Il n'y a rien sur lui.
Ah, il n'y a pas de photo de Wilbrod.
Il y avait un livre.
Ouais, il y a un livre avec sa
face. Mais c'est tout. Le reste, c'est tout le centre de formation professionnelle. Je me disais, mon Dieu, François, quel défi. Hein?
Oui, c'était un pas pire défi, mais j'ai mis la main sur le 10 livres. Alors, ça m'a pas mal aidé.
Je vois.
Vite comme ça, Bérard, c'est pas un nom fréquent. C'est d'origine allemande. Il ah. y a eu une immigration allemande au Québec vers la fin des années 1700. Il y a eu des mercenaires allemands qui sont venus aider les Britanniques à se défendre contre les Américains qui étaient nouvellement indépendants et qui avaient des visées sur notre territoire. Alors, c'est pour ça que ce monsieur-là, je pense que le vrai nom, c'était Bührer, une affaire comme ça. Là. Puis avec le temps, c'est devenu Bérard.
Il y a eu une grosse vague d'immigration allemande, peut-être pas juste à ce moment-là, mais je me souviens d'avoir fait un truc sur Milt Schmidt, un ancien joueur de hockey, qui venait de Kitchener, en Ontario. Et la ville de Kitchener s'appelait autrefois
Berlin.
Et parce que beaucoup d'Allemands étaient allés s'établir là.
Eh bien, hey, on en apprend que le Québec se lève en passant.
Quand même.
Non, mais c'est pas parce que c'est dimanche qu'on s'instruit pas, là. Il fait gris dehors, là. On s'instruit.
Alors, revenons sur Wilbrod. Il est né en 1905 à Saint-Fidèle, dans Charlevoix, puis il est mort en 1998 à Québec. Il avait 92 ans. C'est un homme qui a étudié en droit, qui est devenu avocat. Puis ça, c'est de là que tout part. Mais à un moment donné dans sa carrière, il a été pratiquement tout sauf avocat. En fait, moi, Wilbrod Bérard, je pensais au départ que c'était un ancien maire ou conseiller municipal, parce que d'habitude, quand on nomme quelque chose, on nomme quelqu'un, c'est souvent des politiciens. Pas en tout. Il a pas été politicien.
Ah, j'étais sûr que c'était un ancien maire.
Non, il s'est intéressé à la politique, puis il était quand même près de pas mal de politiciens, vous le verrez, là. Mais il a jamais fait de politique active lui-même. En tout cas, là, comme élu, il a jamais été élu. Et sa pratique d'avocat, à un moment donné, il a bifurqué dans le droit commercial et des affaires. Aujourd'hui, c'est fréquent. Là, on a même des bureaux d'avocats qui sont spécialisés uniquement là-dedans. Mais à l'époque, au Québec, c'était très rare. Parce que les affaires puis le clergé, ça allait pas vraiment ensemble. Alors, c'était pas super bien vu. Mais lui, à un moment donné, il s'est mis à représenter des clients qui étaient là-dedans, dont l'Association des marchands détaillants, entre autres. Puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres clients du même genre. Puis il est parti là-dedans. Et c'est ça qui a fait que cet homme-là est devenu administrateur. À un moment donné, là, vers la fin de sa carrière, là, à partir de la fin des années 50, M. Bérard, c'était un administrateur. Il a été président des chantiers navals George T. Davy de Lauzon de 1958 à 64 et de la division maritime de la Canadian Vickers à l'époque. Il a été président fondateur du centre hospitalier de l'Université Laval. Le CHUL, c'est lui.
Ah ouais?
Il a été président du Carnaval de Québec en 56 et 57. Je vous l'avais dit la semaine dernière.
Oui.
Il avait été un de ceux qui avait été à l'origine de la relance. Ben là, en 56 et en 57, on lui a donné la présidence. Et puis, il l'a lancé sur des bases solides parce qu'au début, les finances, c'était un petit peu rock'n'roll pour le carnaval. Là. Mais lui, il avait des qualités d'administrateur assez bonnes. Puis, il a mis ça sur des bases solides. Il a été président de Télécapital de 1978 à 1983. Télécapital qui est maintenant la TVA
Québec,
ici.
Ouais.
Là, c'est ça.
Ça a été
exactement. Puis, sous sa gouverne, vous allez voir tantôt, là, il a redressé la station qui avait des difficultés financières, puis il l'a amené à un autre niveau. Il a été président de la Commission des écoles catholiques de Québec, l'ancêtre de la Commission scolaire de la capitale, de 58 à 71, et c'est à ce titre qu'il a mis sur pied la première école pour décrocheurs, qui est maintenant le centre de formation professionnelle Wilbrod Bérard. littéraire. Okay. Il a été président de l'Orchestre symphonique de Québec de 63 à 67.
Okay. Juste là, là, dans ce que tu viens de nous nommer, il y a 6 affaires. Là. Un chantier naval, un centre hospitalier, donc domaine de la santé, plutôt que de vraiment dans l'industrie. Président du Carnaval de Québec, on est dans l'événementiel. Télé-capitale, donc culture. Commission des écoles catholiques, éducation, puis orchestre symphonique, culture. Il a tout fait, cet homme-là.
Ah ouais, il a touché à peu près à tout. Il n'était pas spécialiste dans tout ça, mais le.
Non, il était spécialiste d'administration.
Exactement, ouais, c'est ça. Puis la qualité qu'il avait, c'est qu'il savait s'entourer de gens qui connaissaient le domaine dans lequel il était. Là. Parce que lui, évidemment, là, quand il arrivait dans ces domaines-là, là, quand il est arrivé en télé, là, il l'a dit, là, je ne connaissais pas grand-chose là-dedans. C'est un monsieur qui se renseignait, qui suivait l'actualité.
C'est un bon chef d'orchestre, dans le fond. Le chef d'orchestre, il ne sait pas nécessairement jouer du violon. Là.
C'est ça. Mais quand même, il est allé aux États-Unis pour voir comment les télés américaines fonctionnaient. Alors, c'était un monsieur qui se contentait pas juste de compter l'argent, là, de faire une colonne de gauche et une colonne de droite.
C'est ça.
Mais il apprenait comment ça fonctionnait puis il savait bien s'entourer. Il a été membre de plusieurs conseils d'administration, 50 en tout, parmi les plus prestigieux, Power Corporation, Canadian Vickers, Canada Steamship Line, Gaz Métropolitain, les pharmacies Brunet et le Syndicat de Québec, qui était
un magasin réputé.
Plus ou moins lointaine, c'est ça, un magasin réputé dans la région de Québec. Il a aussi contribué à la mise sur pied de l'Office du tourisme de Québec en 1935. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui. Ben parce qu'à un moment donné, je regardais ça. J'ai dit, coudonc, lui, y a-tu quelque chose à Québec dans laquelle il n'a pas été impliqué? Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Je disais qu'il n'a pas fait beaucoup de. Il n'a pas fait de politique active, mais sa famille en a fait un peu. C'était un bleu. Monsieur Bérère, là, sa famille, c'était des Bleus, les conservateurs et l'Union nationale. D'ailleurs, il est devenu trésorier du Parti conservateur fédéral en 1958, alors qu'il était dirigé par John Diefenbaker. Et puis même s'il était un Bleu, ben, il avait des amis de l'autre côté. C'était un bon ami de Jean Lesage, entre autres. Et ça l'a aidé pour certaines levées de fonds. Entre autres, je parlais de l'Orchestre symphonique tantôt. Là. Lui, quand il est arrivé là, ça allait vraiment pas bien. Mais avec ses contacts politiques, il a réussi. Un, il a remis de l'ordre dans la baraque. Il a professionnalisé l'OSQ. Puis avec l'aide de ses contacts politiques, ben, il a réussi à obtenir du financement parce qu'effectivement, c'était important. Alors donc, je disais que ce monsieur-là, il est devenu à un moment donné avocat de plusieurs entreprises ou d'associations d'entreprises. Et un de ses premiers clients, ça a été l'association des propriétaires d'autobus. Puis c'est à ce titre-là qu'il a rencontré Paul Desmarais et qui est devenu un bon ami de Paul Desmarais. Puis de fil en aiguille, mais là, c'est ça. Là, il commence à être nommé dans plusieurs conseils d'administration. Puis en 1958, à l'époque, les commissaires scolaires n'étaient pas des élus. Là, ça vient de se terminer là, avec la fameuse loi 40. Mais à cette époque-là, c'était pas des élus. Et c'est Maurice Duplessis qui l'a appelé. La commission des écoles catholiques de Québec, ça n'allait pas très, très bien. Alors, puis lui, il connaissait bien M. Duplessis parce que sa famille l'avait aidé à se faire élire comme chef du Parti conservateur dans les années 30. Parti conservateur du Québec qui est devenu l'Union nationale. Alors, les deux se connaissaient. Alors, il a appelé M. Bérère, puis il a dit, Wilbrod, je veux que tu sois le président de la commission des écoles catholiques de Québec. Et lui, il a fait comme, whoop, allez, un petit peu, là. Je connais.
Time out.
Ouais, c'est ça, je connais pas ça tant que ça. Puis finalement, bien, il en a parlé à son épouse, puis il a dit, go, vas-y. Alors, il est allé là, puis c'est à ce titre-là qu'il a fini par fonder l'école Wilbrod Bérère. En fait, lui, ce qu'il s'apercevait, c'est que à cette époque-là, le milieu de l'éducation commençait à changer. Là, on était au début, vers la fin du règne Duplessis, puis au début du règne Lesage qui a mené à la Révolution tranquille. Puis lui, ce qu'il s'apercevait au fil de fil en aiguille, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se reconnaissaient pas dans ce qu'on appelait le cours classique à l'époque, puis le cheminement qui menait vers l'université. C'était pas fait pour tout le monde. Déjà, lui, dans les années 60, là, le fait qu'il soit allumé à ça, là, c'était un peu pas mal avant-gardiste.
Ouais.
Alors, c'est là qu'il a dit, ben là, ça prend une école pour ces gens-là. Alors, il a dit, on va faire une école, ça s'est appelé péjorativement une école pour décrocheurs, mais de fil en aiguille, c'est devenu de la formation professionnelle. Et à l'époque, le ministère de l'Éducation ne voulait pas. Parce que là, c'était M. Gérin Lajoie qui venait d'arriver avec Jean Lesage. Puis lui, il avait une idée là, assez uniforme de ce que devait être le système d'éducation. Puis lui, il voulait des écoles multifonctionnelles. Alors, une école spécialisée pour les décrocheurs, ça rentrait pas dans son plan. Alors, il a dit non à M. Bérard. M. Bérard était quand même un homme entêté.
Oui.
Alors, Yoré est tenace, on peut dire ça comme ça, opiniâtre. Et il a réussi finalement à faire passer son projet. Et de fil en aiguille, l'école de formation professionnelle Wilbrod Bérard est née. Au départ, ils l'ont appelé comme ça vers la fin des années 60. Il ne voulait pas. Lui, il ne voulait pas que cette école-là porte son nom. Puis, son assistant à l'époque, puis c'est celui, en fait, lui a eu l'idée, mais celui qui a vraiment conçu l'école, c'est un dénommé Louis-Marie Lavoie. Il y a peut-être des gens qui se souviennent de ce nom-là. Oui. Il a été maire de Sainte-Foy, ce monsieur-là, de 1981 à 85. Avant l'arrivée de Mme Boucher à la mairie, là, le maire avant Mme Boucher, c'était lui. Puis il était...
Ouais.
Louis-Marie Lavoie, oui, c'était lui.
C'est le OK.
C'était le maire de Sainte-Foy de 1981 à 85. Puis il travaillait, lui, il était pour le syndicat des professeurs. Puis M. Bérard l'avait recruté parce qu'il trouvait que c'était un monsieur qui avait des bonnes idées puis qui cadrait avec la vision que Wilbrod Bérard avait de l'éducation. Alors, c'est lui là, qui a lancé ça. Puis de fil en aiguille, là, c'est devenu une école aujourd'hui. Là, je pense qu'il y a 33 métiers différents qui sont enseignés. Là. Ça passe de la cuisine jusqu'à la formation là, pour... Mécanique automobile.
Ah, je pense que c'est même là qu'il donne aussi des cours de gestion de carrière artistique pour les musiciens, les artistes un peu underground qui veulent essayer de faire carrière là-dedans. Là. Me semble que c'est au centre Wilbrod Bérard, une auditrice qui nous écrit « Hey, méchante carrière, ce monsieur Bérard, mais il aurait dû créer davantage de stationnement près de son école. »
Oui, ouais, à l'époque, quand ça a été fondé, l'autoroute du Frey-Montmorency, mais Laurentienne n'existait même pas.
C'est vrai.
Alors, ça a changé pas
peut-être
mal.
Moins d'auto un peu.
Dans le fond, ils l'ont fait à côté de l'école Cardinal Roy parce qu'ils voulaient que, dans le fond, les jeunes qui décidaient de prendre ce profil-là soit pas trop loin de l'école qui existait déjà. Alors, c'est pour ça que le centre de formation professionnelle a été installé là. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est son passage à la Davy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait deux chantiers Davy. Il appelait ça le Grand Chantier Davy, qui est la Davy Shipbuilding à l'époque, qui est maintenant le Chantier Davy qu'on connaît. Et la George T. Davy, c'était un petit chantier juste à côté de l'autre.
Oh.
Puis il allait pas très, très bien. Puis la réputation de M. Bérard commençait à se promener un petit peu partout. Fait que la Canadian Vickers, qui était propriétaire de ce chantier-là, l'ont nommé. En fait, à partir du moment où il a été nommé à la commission scolaire, pas la commission scolaire, mais à la commission des écoles catholiques, presque en même temps, il a été approché pour ce travail-là. Alors, il s'est lancé là-dedans. Puis lui, il connaissait rien à l'industrie maritime, là. Quoi qu'il venait de Charlevoix, il connaissait un petit peu le monde maritime, mais de là à gérer un chantier, c'était autre chose. Mais il a appris rapidement parce que pendant sa présence, les chantiers George T. Davy ont quadruplé leur production.
Hey, monsieur.
Sauf qu'en 1968, ils ont décidé, ils ont recommandé à la Canadian Vickers de le vendre, le chantier, parce qu'ils s'apercevaient que l'industrie maritime s'en allait dans le mur. Les gouvernements ne commandaient presque plus de bateaux. Puis lui, il voyait ça à long terme, puis il se disait, dans 10-15 ans, là, il se passera rien là. Il avait raison. C'est le grand chantier Davy qui a acheté le petit. Fait qu'ils ont fait un grand chantier avec les deux. Mais à partir des années 80, là, ça s'est mis, même un peu avant, là, oups, ça s'est mis à descendre. Puis ça a été très, très difficile. Lui, M. Bérard, avait vu ça. Il avait vu ça venir, puis il avait recommandé à ses patrons, vendez ça. Puis je pense que ses patrons ont été très, très heureux qu'il leur ait proposé ça, parce que ça a été une bonne vente. Pour le CHUL et l'OSQ, il faut en parler, parce que c'est quand même des fleurons de la région. Là. Il a été approché pour devenir président du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique en 63. À ce moment-là, comme je vous le disais tantôt, l'organisation était déficiente, l'OSQ en arrachait financièrement, bref, ça allait pas bien. Il s'est attaqué à une constitution là, d'une structure organisationnelle qui se tient debout. Puis il a utilisé ses contacts pour obtenir du financement. Donc, il a contribué à la professionnalisation de l'orchestre, comme il l'avait fait pour le carnaval. Dans le fond, avec l'OSQ, il a répété un peu la recette qu'il avait mis de l'avant au carnaval quelques années auparavant, ce qui a permis d'assurer la pérennité de l'événement. Mm-hmm. L'OSQ, ça a été la même chose. L'histoire du CHUL, c'est assez particulier. Lui, il était, à ce moment-là, il était président, co-président du comité d'expansion de l'Université Laval. Okay. Et l'Université Laval voulait se doter d'une faculté de médecine digne de ce nom, avec un hôpital associé. D'habitude, quand tu as une faculté de médecine, tu as un hôpital, c'est ça. Mais eux, il n'y en avait pas. Alors là, ils cherchaient comment faire pour jouer dans la cour des grands. Puis ils ont eu l'aide du gouvernement fédéral parce que le CHUL, à l'époque, il avait été construit en 1944 et c'était un hôpital pour vétérans, pour les soldats qui revenaient de la guerre puis qui avaient besoin d'être soignés. Mm-hmm. C'était pour ça qu'on avait construit le CHUL. Mais à la fin des années 60, le gouvernement fédéral voulait s'en départir. Alors c'est là que M. Bérère a dit « Hey! » Voilà notre chance. On achète ça, puis on fait un hôpital à l'image de ce qu'on veut faire pour, disons, que la faculté de médecine soit digne de ce nom. Alors, lui est devenu le premier président du CHUL, puis ça a été vite, là, parce que ça a été vendu le 1er septembre. Lui a été nommé, je pense, en août 1968. Le 1er septembre, l'hôpital venait à la propriété de l'Université Laval, puis go, fallait opérer. Alors lui, il a fallu qu'il se revire de bord sur une scène, comme on dit. La vocation donnée à cet hôpital-là a été l'objet d'un long et houleux débat. Il y en a qui voulaient qu'il soit très spécialisé, d'autres qui voulaient qu'il soit plus multifonctionnel. C'était la vision de M. Bérère et c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'il a quitté en 1979, le CHUL est l'hôpital dont les finances sont les plus saines à Québec. À ce moment-là. Alors quand même, il a réussi son coup. Et pour Télécapital, ça c'est drôle parce qu'il a été, il a œuvré au sein de Télécapital de 72 à 83 pendant 11 ans. Il a été le président 5 ans, les 5 dernières années, 78 à 83. Sous sa gouverne, la production locale passa de 18 à 33 heures par semaine. C'est pas rien, là. Il a pratiquement doublé la production locale. Puis ils ont même construit un centre de production en 1982 à cet endroit-là. Alors, les années de gloire là, de Télécapital, là, ça a été pas mal sous la gouverne de M. Bérère parce que lui, non seulement il était administrateur, il s'organisait pour que les chiffres balancent, comme on dit dans ce jargon-là, mais aussi comment on peut innover pour avoir plus de revenus. C'est un petit peu ça, sa recette, lui. Innover pour avoir plus de revenus. T'as plus de revenus, tu peux faire des améliorations et les améliorations apportent plus de revenus. Alors, c'est comme ça qu'il administrait.
Et à partir d'aujourd'hui, quand vous passerez devant le centre de formation Wilbrod Bérère, vous saurez c'est qui le gars.
Et voilà. Mmh.
François, moi, sincèrement, je te lève mon chapeau. Je trouve ça extrêmement intéressant de t'écouter. Ouais. Puis je me doutais pas de l'ampleur de la carrière de ce monsieur-là.
Ben, moi non plus, honnêtement.
Sincèrement, c'est
je tombe en bas de ma chaise.
C'est vraiment une très belle découverte. Puis écoute, j'ai bien hâte de voir sur la vie de qui ou bien sur quelle histoire tu vas te pencher cette semaine
pour la semaine prochaine. Je suis pas sûr encore à 100%, mais en lisant sur la carrière du monsieur, j'ai été très intrigué par les chantiers des vies. Moi, je savais pas ça qu'il y avait deux chantiers des vies. Puis l'industrie maritime à Québec, là, à un certain moment, là, c'était l'industrie avec un grand I, là, c'était pratiquement juste de ça.
Ah oui, dans le temps de la Nouvelle-France, c'était ça, ces deux rives. Là.
C'est ça. Puis quand les Britanniques sont venus, ont pris possession de la Nouvelle-France, mais ben là, les bateaux étaient construits en bois, puis disons que la cour arrière était pas très loin.
Ouais.
Alors, ça, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine.
Hey, merci, François.
Bienvenue.
Notre studieux.
Oui,
bravo. François Thérien.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là. Le Québec vibre au rythme du Canadien.